Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Appelez-nous, exprimez-vous. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. À plus d'un mois de l'élection présidentielle, l'opposition parle d'une seule voix. Hier, les principaux partis ont décidé d'appeler à la désobéissance civile pour obtenir le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat, candidature qu'ils jugent anticonstitutionnelle. L'opposition exige également la dissolution de la commission électorale et du conseil constitutionnel, mais aussi la révision de la liste électorale, la libération de tous les prisonniers politiques ou encore le retour des exilés, notamment le retour de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Alors que pensez-vous de toutes ces exigences? Que vous inspire ce front anti-Ouattara et quelles peuvent être les conséquences de ce bras de fer engagé avec le pouvoir? C'est notre débat du jour, vous êtes nombreux au standard 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes plusieurs centaines. Je ne peux pas évidemment lire tous vos messages à l'antenne, mais je les consulte et ils me permettent évidemment d'alimenter la réflexion et d'alimenter tout à l'heure le débat. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, eh bien vous nous appelez. On est là, en direct, tous les matins, 20 minutes pour vous répondre avec nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Noël nous a contacté d'Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire. Bonjour Noël.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue. Vous avez des questions sur la Libye?
Oui Juan, la semaine dernière, le Premier ministre libyen, M. Sarraj, a annoncé la démission prochaine de son gouvernement. Alors je voulais savoir ce qui explique le timing d'une telle annonce et qui sont les personnalités pressenties ou le remplacer.
Oui, le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, gouvernement reconnu par la communauté internationale, a annoncé effectivement son intention de démissionner d'ici la fin du mois d'octobre. Houda Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Houda. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Cela fait maintenant 4 ans et demi que Fayez al-Sarraj occupe le fauteuil de Premier ministre. Il faut rappeler, Houda Ibrahim, que sa nomination a été le fruit d'un accord conclu sous l'égide des Nations Unies.
Eh bien, aujourd'hui, sa mission est terminée. Fayez al-Sarraj a été nommé effectivement par décision de la communauté internationale en 2015 à la tête de ce gouvernement censé être un gouvernement d'union nationale et dans le but d'organiser des élections afin de sortir le pays de la période de transition en place depuis 2011. Cette décision a été prise suite à l'accord politique non inclusif interlibyen. Ce gouvernement s'est installé à Tripoli en mars 2016, mais il a échoué à organiser les élections et le pays est allé entre-temps vers plus de divisions et plus d'interventions étrangères.
Oui, plus de divisions, le gouvernement Sarraj n'a jamais été entériné par le Parlement et le gouvernement précédent a continué à exister à l'est du pays.
Tout à fait, bien que reconnu par la communauté internationale, ce gouvernement est né faible et il a fini par être une vitrine pour les milices islamistes de Tripoli. Sa mission devait durer un an, renouvelable une seule fois selon l'accord de Sriraat. Donc sa validité est déjà périmée, tout comme la majorité des institutions libyennes. Aujourd'hui, avec la reprise du dialogue interlibyen, former un vrai et un seul gouvernement pour conduire le pays vers de nouvelles élections dans les 18 prochains mois s'impose. Les élections ne pouvant plus être organisées par l'actuel gouvernement basé à l'ouest et face à un autre gouvernement à l'Est. Il y a aussi le fait et la nécessité de consolider le cessez-le-feu. Ça passe donc par 7 étapes, le retrait de Fayez al-Sarraj, tout comme de Khalifa Haftar de la scène politique. On rappelle que le gouvernement de l'Est a également donné sa démission il y a quelques jours, la semaine dernière, et que les discussions préalables au dialogue national sont engagées. Les discussions vont reprendre la semaine prochaine à Bouznika au Maroc, puis en Suisse sous l'égide de l'ONU le 5 octobre.
Oui, on a donc les deux chefs du gouvernement qui se disputent le pouvoir, qui jettent l'éponge. Voilà le timing pour répondre à votre question, Noël. On verra si ces démissions vont rebattre les cartes politiques de la Libye post-Kadhafi. Noël, nous s'interrogeait sur les prochaines élections. Elles sont prévues donc d'ici quoi, 18 mois, c'est ce que vous disiez, Houda Ibrahim. Qui est pressenti pour succéder le Premier ministre ?
Alors, 18 mois, je précise, à partir de la nomination d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Mmh. Et quant à la personnalité pressentie, il est vraiment très difficile à dire, mais les tractations vont bon train. Si l'on veut un gouvernement d'union nationale et si l'on veut suivre les réclamations des protestataires à l'est comme à l'ouest libyen, et d'ailleurs, des manifestations sont prévues aujourd'hui dans les deux parties du pays, il faut une personnalité qui ne fait pas partie de l'actuelle classe politique accusée de corruption et qui n'a plus la confiance du peuple. Mais la Turquie, qui a signé plusieurs accords avec le gouvernement Sarraj, est mécontente de sa démission. Elle appuie les islamistes en Libye et s'accroche à deux personnalités. Fathi Bachara, l'actuel ministre de l'Intérieur, soutenu aussi par Washington, qui lui a confié la mission difficile de dissoudre les milices, et Khaled El-Mishri, le président du Haut Conseil de l'État, qui est l'homme de la Turquie en Libye.
Vous parliez de la Turquie, Houda Ibrahim. J'imagine qu'Ankara va mettre le maximum de pression sur la table pour essayer d'avoir un Premier ministre qui lui est plutôt favorable. La Turquie a des intérêts en Libye.
Et tout à fait, mais il me semble difficile de former aujourd'hui un gouvernement d'union nationale avec une personnalité trop marquée à l'ouest. Bachara est un chef de guerre, El-Mishri un chef islamiste. Un autre nom s'est propulsé sur le devant de la scène, c'est celui de Ahmad Mraitig, qui est le vice-président du conseil présidentiel et qui n'est ni islamiste ni chef de guerre. Il vient de signer un accord avec le camp de l'Est libyen pour la reprise de la reproduction pétrolière. Et on peut dire maintenant que Moscou et le Caire misent sur lui.
Affaire à suivre donc. Noël, a-t-on répondu à vos questions ? La situation, vous le voyez, évolue et elle est de plus en plus complexe en Libye.
Oui, en effet, Juan.
Vous souhaite une bonne journée à Abidjan ?
Bonne journée à vous.
Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Rappelez-nous quand vous le souhaitez. Houda Ibrahim, merci de toutes ces explications. À très vite, évidemment, dans cette émission. 33 9 693 693 70. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Merci de nous avoir appelé de Tawa, à 350 km à l'est de Niamey. Voilà qui est précis. Quelles sont vos questions, Moussa ?
Donc, le groupe État islamique a revendiqué récemment l'attaque qui a fait 8 victimes à Bouré au Niger le 9 août dernier.
Oui.
C'est pourquoi, à peu près plus d'un mois que le groupe État islamique revendique cette attaque, et est-ce qu'on en sait plus sur les auteurs de cette attaque ?
Ah, bonne question, effectivement. L'assassinat des 6 humanitaires français, de leur chauffeur et de leur guide nigérien a effectivement été revendiqué que jeudi dernier. Alors, l'attaque avait eu lieu le 9 août. Bonjour Moussa Kaka.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, correspondant de RFI à Niamey. Rappelons que ces 8 personnes, 6 Français et 2 Nigériens, ont été assassinés alors qu'ils visitaient une réserve de girafes à 60 km au sud-est de Niamey. Attaque finalement revendiquée par l'organisation de l'État islamique. Pourquoi a-t-il été si long pour ce groupe de revendiquer l'attentat ?
Oui, Juan, donc il y a plusieurs explications. Hein. Donc ce n'est pas la première fois que du temps est mis par des terroristes avant de revendiquer ou de signer un attentat. Vous vous souvenez, lors de Tongo Tongo, les opérations de Tongo Tongo, des soldats nigériens et des forces spéciales américaines sont tombés dans ce lieu-là, et la revendication a mis beaucoup de temps avant de tomber. Alors pour le cas de Kouré, plusieurs observateurs pensent que les assaillants n'ont pas eu le temps de faire parvenir leurs images ou d'entrer en contact avec leurs commanditaires. Au vu donc de l'importante armada qui était à leur trousse les premières heures et premiers jours après l'attaque, donc je voudrais parler des forces de défense et de sécurité, les forces Barkhane et les Américains avec leurs drones. Donc toute cette armada était derrière ces djihadistes qui ont commis l'attentat. Alors ils n'ont pas eu le temps, la zone a été bouclée. Je soupçonne donc que les services antiterroristes avaient sur l'appartenance des assaillants ne faisaient aucun doute. L'État islamique était dans le viseur dès au départ. Avec cette revendication officielle, donc aujourd'hui c'est très clair. Et d'ailleurs, dès les premières heures de la poursuite des assaillants, ils sont dirigés sur la frontière malienne. L'adjoint du chef de l'État islamique dirigé par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, donc il a été tué lors d'une frappe des avions partenaires Barkhane, semble-t-il. Cet adjoint n'est autre que Abdel Hakim le Targhi, alias Abdel Hakim le Boucher, un vrai sanguinaire qui avait commandé la ville de Gao sous l'occupation djihadiste entre 2012-2014. Il dirigeait donc, il supervisait les flagellations des femmes et des hommes à Gao. Il rendait la justice en sanctionnant les mains des voleurs et autres. Nous l'avons côtoyé au moment où nous faisons des reportages pour RFI en ce temps-là. Alors il dirigeait donc cette action de courée quand il a été tué par les frappes donc aériennes.
Donc on en sait plus évidemment maintenant sur les auteurs de ces assassinats. Moussa, vous avez une autre question ?
Oui, j'ai une dernière question. Donc, quelles sont les précautions prises par l'État nigérien pour prévenir à l'avenir ces armes d'attaque ?
Moussa Kaka.
Oui, Juan, donc il faut dire que l'attentat de Kourou a vraiment fait trembler tous les services de sécurité du Niger. Après donc avoir envoyé des renforts dans la zone, le gouvernement a pris des mesures urgentes pour interdire l'accès à ce parc animalier jusqu'à nouvel ordre à toute personne. Un état d'urgence aussi a été décrété dans les deux dernières préfectures, Kolo et Baleyara, toutes proches de la zone de l'attentat. Toute circulation d'engins à deux roues est également strictement interdite. Les déplacements sont contrôlés. Et enfin, il a été demandé à toutes les ONG humanitaires de développement et autres projets de développement de se faire escorter par l'armée dans leurs déplacements sur les zones d'intervention.
Bien, ben voilà qui est dit, Moussa. Je pense qu'on a été complet dans nos explications.
Oui, je suis bien satisfait.
Bon, merci infiniment d'écouter RFI Ottawa. Merci de nous avoir appelés. Et voilà, vous écoutez le journal. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, rappelez-nous. On est là tous les matins. On vous répond évidemment. Merci infiniment à Moussa Kaka, correspondant de RFI à Niamey. Avant de repasser au standard, sachez que demain, nous vous proposerons une émission spéciale à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Mali. Un anniversaire qui survient dans un contexte pour le moins particulier, puisque le pays vient de connaître le 4e coup d'État de son histoire, et hasard du calendrier, c'est demain qu'expire l'ultimatum de la CEDEAO fixé par la junte pour désigner un président et un premier ministre civil pour diriger la transition. 60 ans d'indépendance, quel bilan dressez-vous ? Appelez-nous, on a envie de vous entendre. Vous pourrez dialoguer demain durant près d'une heure avec nos invités, donc prenez la parole, 33 9 693 693 70. Dans un instant, j'accueillerai, et il s'installe en ce moment, Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI, mais d'abord, une question concernant l'élection présidentielle du mois de novembre au Burkina Faso. Bonjour Amidou.
Oui, bonjour Juan.
Merci de nous appeler de Ouagadougou, nous vous écoutons.
Voilà Juan, Yacouba Isaac Zida, l'ancien premier ministre de la transition, sera investi le 25 septembre 2020 comme candidat aux élections de novembre 2020. Juan, je voulais savoir, ta candidature ne risque-t-elle pas d'être recalée à la Cour constitutionnelle ? Si on sait bien qu'il est accusé de malversation et de désertion.
Ouais, normalement, c'est vendredi, effectivement, que Yacouba Isaac Zida devrait être investi candidat à la présidentielle du 22 novembre. Bonjour Yaya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour Yacouba.
Correspondant de RFI à Ouagadougou. Amidou le disait à l'instant, Zida sera candidat, certes, mais il vit exilé au Canada depuis la fin de la transition. Toute la question est de savoir s'il va pouvoir rentrer au pays sans être inquiété, s'il va pouvoir effectivement faire acte de candidature, puisqu'il est non seulement radié des effectifs de l'armée, mais en plus il est soupçonné de corruption dans plusieurs dossiers.
Oui, Juan, pour le moment, les responsables du mouvement pour le salut, le parti qui soutient sa candidature, confirment ce mandat d'arrêt lancé contre Yacouba Isaac Zida. Alors, ce mandat, selon ses proches, a été lancé après sa radiation des rangs des forces armées, mais Yacouba Zida est tout à fait disposé à répondre à toute convocation de la justice. C'est vrai qu'il a été radié des forces armées nationales pour désertion et en temps de paix et insubordination. On attend son retour au pays pour en savoir davantage. Parce que ses sympathisants assurent qu'il sera bel et bien à Ouagadougou à l'occasion de cette cérémonie d'investiture comme candidat pour la présidentielle de novembre prochain.
Donc il sera de retour au plus tard vendredi prochain. En deux mots, Yahya Boudani, si jamais il rentre effectivement, il devra, j'imagine, rendre immédiatement des comptes à la justice puisqu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
Absolument, étant donné que le mandat d'arrêt n'a pas été annulé, s'il arrive au Burkina, absolument, il doit rendre compte à la justice. Son nom est également cité dans la procédure judiciaire de la répression pendant l'insurrection populaire d'octobre 2014, qu'il faut noter également.
Bien. Vous aviez une autre question, Amidou ?
Oui, Juan. Une fois sa candidature validée, quels sont ses chances ? Reste-t-il populaire ?
Ah, est-il populaire, Yahya Boudani ?
Ben, il reste encore populaire au niveau du Burkina Faso. Il a ses supporters, il a de nombreux sympathisants. Et puis, il faut dire que chaque candidat aura ses chances. Hein, s'il part à armes égales pour ces élections, nous ne sommes plus en 2015 où certaines personnes avaient été recalées pour avoir soutenu la tentative de modification de la Constitution. Donc, si Yacouba Zida est candidat et qu'il est sur place, il a toutes ses chances également.
On aura l'occasion d'en parler certainement avec les auditeurs. Merci beaucoup Yahya Boudani, bonne journée à Ouaga. Merci à Amidou de nous avoir appelés. Je vous le disais il y a quelques minutes, il s'installait tranquillement dans ce studio. Alejandro Valente est parmi nous ce matin. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Chef du service des sports de RFI, des questions concernant Luis Suarez, l'attaquant du Barça. Bonjour Samuel.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons avec Alejandro Valente.
En cette période du mercato, le monde du football s'interroge sur l'avenir de l'attaquant uruguayen de FC Barcelone, Luis Suarez. Mmh. Tantôt annoncé à la Juventus du Turin, nous apprenions que le joueur devrait passer un test linguistique pour obtenir la nationalité italienne. Pourquoi toutes ces conditions alors qu'il a déjà joué pour les équipes européennes comme l'Ajax d'Amsterdam, Liverpool et FC Barcelone, tout en gardant sa nationalité uruguayenne?
Oui. C'est vrai que Luis Suarez a dû passer un examen pour obtenir la citoyenneté italienne. Alors, ce n'est pas une obligation étatique, hein, ce n'est pas une obligation de l'État italien, c'est la Juve qui demande à Suarez de passer cet examen.
Il y a une obligation quand même, parce que depuis que Matteo Salvini est passé au ministère de l'Intérieur, vous savez, le leader d'extrême droite italienne, il a estimé que pour obtenir la nationalité italienne, même quand on avait droit, il fallait quand même passer un test de culture générale et des langues, c'était une obligation. Donc la Juventus, pourquoi la Juventus a exigé ça? Tout simplement parce qu'en Italie aujourd'hui, un club ne peut pas recruter plus de 2 joueurs hors Union européenne par saison. Or la Juventus avait déjà recruté un Brésilien, Arthur, un Américain, McKennie. Donc Suarez devait obligatoirement avoir une nationalité européenne. Ça tombe bien, sa femme a le double passeport uruguayen et italien. Donc il a pensé que ça allait être beaucoup plus rapide. Mais finalement, les choses ont beaucoup traîné. Et finalement, la Juventus aujourd'hui semble avoir pratiquement écarté l'idée de prendre Luis Suarez. Car...
Parce que je dis, quand il s'est rendu en Italie, on se disait, bon bah ça y est, il passe son examen. La presse italienne disait, bah il a obtenu son examen. Donc allez, dans quelques jours, il aura son passeport italien. Et visiblement, pendant le week-end, on s'est aperçu que ce serait plus long que prévu.
Voilà, c'est long. Et probablement, il ne l'aura pas avant le 5 octobre, qui est la date limite du mercato. Donc du coup, la Juventus s'est dit on va pas attendre, on va partir sur une autre piste. Et l'autre piste, c'est Edwin Dzeko, qui est bosniaque. Alors vous me direz, un bosniaque n'est pas non plus... la Bosnie ne fait pas partie de l'Union européenne, oui. Mais à la différence de Suarez, Dzeko évolue déjà en Italie puisqu'il jouait à la Roma. Et dans ce cas-là, cette règle ne s'applique pas à lui.
Donc ça veut dire quoi, Alejandro Valente? Luis Suarez reste au Barça?
Reste au Barça, ou alors il faudra qu'il trouve un autre club d'ici le 5 octobre. Alors Barcelone va probablement mettre la main à la poche pour essayer d'aider financièrement une solution avec un autre club. Encore faut-il que Suarez soit des bonnes compositions et accepte de jouer le jeu. Au Barça, on lui reproche de ne pas se montrer très pressé de trouver une solution satisfaisante.
À suivre là aussi. Merci Alejandro Valente d'être venu répondre à Samuel qui nous appelait de Ouagadougou, 33 9 693 693 70. Vous continuez à nous appeler et nous restons ici. On marque une pause, le journal, mais on revient tout de suite après. On parlera de la stratégie de l'opposition en Côte d'Ivoire.